Et oui, Vendredi Théâtre, notre générique, il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano et je suis avec toute l'équipe, pratiquement toute l'équipe des chroniqueurs de Vendredi Théâtre. Je suis avec l'inénarrable Tito. Bonjour Tito.
Bonjour.
Je suis avec la belle Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Je suis avec également Robin. Robin, bonjour Robin.
Bonjour.
Et nous allons parler d'un premier spectacle qui se déroule actuellement au Théâtre Jean Vilar. Il s'agit de la pièce qui s'appelle El Cid. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir deux comédiens de la distribution. Nicolas Delorme, bonjour.
Bonjour.
Et Vincent Trouble, bonjour.
Bonjour.
Alors, El Cid, nous allons bien sûr parler du Cid. Pour résumer le Cid, il y avait un écrivain qui résumait le Cid en une phrase. C'était Georges Fourès qui disait le Cid, pour le résumer, « Dieu qu'il est joli garçon, l'assassin de papa ». Voilà, le Cid, c'est donc une version un tout petit peu revisitée par Philippe Carr, n'est-ce pas ?
Oui, on peut dire ça comme ça, oui, effectivement. C'est, disons qu'on est une compagnie qui aime bien revisiter les classiques, parce que le précédent, c'était le bourgeois gentilhomme. Voilà, on va pas tout vous dévoiler, mais c'est vrai que c'est particulier. Disons que les gens qui viennent voir le Cid version classique seront, à mon avis, relativement déçus.
Et non, en fait, justement, moi, hier soir, il y a une dame qui est venue me dire, elle est venue voir le Cid en me disant, j'espère, elle est venue avec ses copines, et elle m'a dit, j'espère que, oh là là, que ce sera une version bien classique, parce qu'on n'était pas, on avait envie que ce soit bien classique. Et on vous a vu commencer, on s'est dit, mon Dieu, on va partir au bout de 5 minutes. Et en fait, à la fin, ils ont beaucoup aimé.
Mais ce que Nico voulait dire, c'est qu'elle est venue avec des pieds de plomb, en fait. Pour faire plaisir à une copine, elle s'est dit « Oh là là, je vais voir le Cid version classique ». Et elle est vraiment avec les pieds de plomb. Et alors, quand elle a vu la version, elle nous a dit « Après, je me suis régalé, c'était super ».
C'est vrai que c'est une version qui déménage. Pendant une heure et demie, on ne s'ennuie pas une seconde. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même... C'est que des tubes, pratiquement, les tirades du Cid. C'est que des tubes. On ne se souvient plus vraiment. On se dit « Tiens, mais c'est vrai que c'est là-dedans, telle phrase. » Alors tout le monde a vu le spectacle, c'est le principe de l'émission, on voit les spectacles, on va en parler. Eh bien je vais céder la parole à Tito qui a l'air tout à fait serein pour nous dire ses impressions et puis pour poser des questions. Voilà Tito, si tu veux bien.
Alors, l'histoire c'est un voyage, hein, c'est ça ? Non. Donc, alors j'ai lu la présentation quand même parce que je suis un bon élève. Et donc, vous avez fait ça, vous travaillez comme ça. J'aime bien savoir comment vous travaillez. Selon ce qui est écrit dans la feuille de salle, donc vous partez en Espagne, au Maroc, et vous écrivez en allant. Bon, c'est ça ?
Bah, disons qu'on le,
on ou
le,
c'est au retour.
On le crée effectivement sur la route.
On le crée en voyage.
On s'inspire un peu de l'univers dont parle le spectacle. Comme ici, c'est le Cid, il y a un univers espagnol, mort, tout ça. Donc on va un peu dans les pays qui parlent, enfin voilà, dont on parle dans ce spectacle. Et on essaye de s'en inspirer autant au niveau des décors que de la langue, que des musiques. Que voilà. C'est ce qu'on fait en général pour tous nos spectacles.
C'est drôle parce que ça sonnait extrêmement mexicain, par contre.
Oui.
Alors, les boléros, les mariachis, alors là, c'était...
Tout
moi, j'étais plutôt au Mexique. Mais oui.
Oui, c'est vrai.
Mais ça a été un choix aussi de Philippe de mettre des musiques, des chansons d'amour en fait, des vieilles chansons d'amour un peu désuètes.
Voilà.
Et c'est vrai que là, on a plutôt été du côté du Cuba ou du Mexique pour choisir ça, effectivement.
Oui, on chantait avec vous, hein,
voilà.
À voix basse, parce qu'on est discret. Mais...
voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pratiquement l'intégrale du texte, je crois. Il n'y a presque pas de coupes qui ont été faites.
Aussi, quand même.
Je pense qu'il y a quelques coupes, on essaie de respecter quand même globalement l'écriture.
On reconnaît quand même toutes les grandes tirades.
Oui, non, mais après, si, ça a été pas mal coupé, ça a été même réécrit, il y a des vers qui ont été retransformés. Au moment de la réécriture, on s'est beaucoup posé la question de la compréhension actuelle de ce texte, de se dire, nous, on avait envie aussi que les gens qui vont jamais au théâtre entendent ce texte pour la première fois et se disent « Ah oui, j'ai bien compris l'histoire ». On avait aussi envie que des ados, des enfants entendent le texte et se disent « Ah oui, j'ai bien compris l'histoire ». Donc on a quand même pas mal réécrit, coupé, retransformé de manière à ce qu'on se dise pas constamment qu'est-ce qu'il a dit comme mot ? C'était quoi l'inversion là qu'il a fait là ? Non, j'ai pas compris. Et que du coup on décroche sur ce qui se passe. Donc ça a un côté assez didactique en plus avec les Alonso. Mais si, le texte il a été quand même... C'est tout le vrai texte. Hein.
Oui.
Épargne-moi Sancho et tout ça fait beaucoup rire les gens, mais ça c'est Corneille après.
Mm-hmm. Robin, c'était la première fois que tu voyais le Cid, tu connaissais quand même la pièce.
Oui, c'est la première fois que je le voyais mise en théâtre, mais c'est pas la première fois que je voyais la compagnie de l'Agence de l'Imaginaire, parce que je vous ai vu par hasard en me baladant à Avignon, à Villeneuve-en-Seine, et vous jouiez Antigone.
Oui.
Et je me souviens, c'était votre petite amie extraordinaire qui jouait le rôle de Créon d'Antigone. Il y avait des jeux de masques, des jeux de...
Valérie Bourgnol,
oui. Qu'il y avait des jeux de drapés incroyables. Et toujours, il y a une construction de l'imaginaire qui est propre, qui vous est propre, et avec des matériaux à la fois forains, à la fois des habillages... assez extraordinaire, très onirique, et toujours, comme vous l'avez dit, ce qui m'a étonné, c'est l'accueil qui était fait, qui était vraiment très chaleureux des étudiants, des lycéens, et qui viennent et dont vous rappelez en fait toujours les mécanismes de la pièce, vous revenez sur l'action, et parce que c'est vrai que on a tendance du coup souvent dans certaines pièces de théâtre à s'éclipser un petit peu de la pièce à des moments, ou alors quand on est avec des amis à discuter ou à rigoler, enfin si je me mets dans l'esprit d'un lycéen qui vient au théâtre de façon imposée, et du coup finalement ça c'est comme un pacte de confiance en fait qui est fait aussi avec le public, de dire ben voilà, on assume le côté très didactique mais on vous lâche pas et on vous tient par des considérations qui sont aussi vôtres que les nôtres, l'enjeu de l'honneur, l'enjeu de la justice et des réflexions du coup qui sont partagées, où vous laissez le temps au spectateur aussi de s'emparer de l'intrigue. Et ça, c'est quelque chose qui est déroutant, mais qui est vraiment crucial, parce que c'est ce dont doit s'emparer le spectateur des questions de la pièce, et vous le mettez en exergue, vous le mettez au premier plan.
D'accord.
Cool. Oui, c'est sûr. C'est, mais disons que on a des personnages, donc les Alonso, qui sont des espèces de narrateurs, qui évidemment ne sont pas dans la pièce de Corneille, et qui effectivement non seulement font avancer la narration, permettre des changements de scène, mais sont aussi des gens qui discutent entre eux, qui débattent de justement de cette espèce de dilemme qui est le dilemme entre le devoir et la passion, hein, qui n'est pas une exclusivité du Cid. Loin de là, dans les tragédies grecques, c'est un thème aussi qui revient souvent. Et donc effectivement, non seulement Corneille parle de ça, mais nous, les Alonso, on est des gens un peu d'aujourd'hui qui se posons les questions et qui ne sont pas d'accord aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pour cette fameuse justice, l'autre dit « mais c'est pas une justice, Rodrigue, ça se fait pas de la vengeance, le duel, c'est quoi, tout ça ?» Donc il y a vraiment tout un débat qui revient dans ce spectacle par des personnages qui sont pas de Corneille, quoi. Et qui font qu'effectivement, ça questionne les gens encore plus sur cette histoire. Ouais.
J'aimerais juste vous poser une petite question, revenir sur la création en voyage qui est vraiment intrigante. Je me demandais si vous avez du coup discuté de cette pièce avec les gens que vous avez rencontrés en voyage, avec des Espagnols, avec des Marocains. Et comment est-ce que ça s'est passé du coup, la création en fusion avec les gens qui connaissent par l'espace ce dont parle Corneille, mais qui ne sont pas de tradition.
Mais en plus, il faut voir entre ce dont parlait Corneille, l'histoire du Cid, telle qu'il l'a écrite, et quelle était la réalité du Cid, de qui était vraiment ce personnage, parce qu'on est allé en Espagne où le Cid, c'était un mercenaire. Hein. En fait, dans la vraie vie, c'était juste un mercenaire qui était employé tantôt par les morts, tantôt par les Espagnols, qui s'est battu dans les deux camps, qui a buté le plus de monde possible pour du pognon. C'était pas un gars jojo, quoi. C'est pas le héros amoureux dont il est question dans la pièce. Et oui, on en a parlé en Espagne, où les Espagnols nous disaient « Mais pourquoi vous faites ce héros-là » Non. Oui, au Maroc, où les gens nous disent « Mais pourquoi le Cid ? Ah bon ?» c'est pas vraiment un héros chez eux.
Bah, c'est-à-dire que c'était un peu les deux. C'est-à-dire que c'est pas, l'histoire n'est pas claire sur le Cid aussi, parce que c'est vrai que le Cid est quand même un symbole chez les Espagnols très important. Bon, mais il me paraît que c'est même un symbole qui est repris par les partis d'extrême droite espagnole, le Cid.
Oui, mais c'est, voilà,
mais donc c'est ambigu. Et quand on était au Maroc, les Marocains nous disaient « Mais qu'est-ce que vous venez avec cette histoire chez nous ?» Parce que dans l'histoire du Cid, nous, c'est les mauvais.
Oui.
Donc, ils se disaient « Mais qu'est-ce que... C'est étrange, pourquoi vous vous venez ici ? Finalement, bon, on leur répondait que je veux dire, c'est une histoire aussi qui parle de cette culture-là, donc on voulait y être.
C'est que l'histoire de la péninsule ibérique est racontée par ceux qui sont restés à cheval.
Et, oui.
Et non pas par ceux qui sont tombés du cheval. Voyez.
Bon, mais après, on a beaucoup parlé aussi des thématiques justement de la vengeance, de l'honneur, qui ont résonné un peu en Espagne avec les gens qui en étaient, aussi au Maroc. On a fini cette tournée donc en itinérance en Corse, où là, on a vu aussi la résonance de ces thèmes-là, où c'était au quart de tour, à chaque fois qu'on pouvait poser la question à des femmes, à des filles, à des étudiantes, elles nous disaient « Non, non, moi, je le tue. » La vengeance immédiate, là, par la mort. Tu vois, où dépendamment des cultures, c'est un thème qui résonne, alors que dans le pays lyonnais, par exemple, les gens nous font « Ah ben non, la justice, quoi, quand même. » Tu vois, donc c'est rigolo, ça résonne pas pareil à chaque endroit.
Gradia, tu ne t'es pas encore exprimée.
Oui, moi je voudrais revenir sur le mouvement, sur la scène. Vous utilisez toutes sortes de pratiques, les marionnettes derrière, oui. Derrière ce rideau. Enfin, ce rideau rouge qui est en même temps une banderille, non quelque chose,
Oui, mais la muleta.
Oui, c'est ça, la banderille, c'est la...
Ben, c'est-à-dire qu'on aime bien réutiliser, en fait, dans notre scénographie, ce qu'on aime bien, c'est utiliser effectivement le visuel dans nos spectacles, est très important.
Très important, ouais.
Très important, et on aime bien les accessoires qu'on utilise, les conjuguer de différentes manières, ouais. À travers le spectacle. Donc un même tissu rouge pourrait être effectivement, peut être un drapeau, peut être un tissu qui fera une ombre chinoise, peut être un drapé qui va faire une blessure de sang. Voilà, et on aime beaucoup utiliser un minimum d'éléments qui font un maximum de choses conjuguées de manière différente. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de 3 semi-remorques pour
Voilà. En fait, c'est il y a peu de choses, somme toute. Il y a la petite caravane, il y a la voiture, elle est extraordinaire.
Moi, c'est la caravane, j'adore la caravane.
Alors la caravane dans laquelle la pauvre Chimène, elle est complètement...
Chimène dans la caravane.
Chimène dans la caravane. Oui, non, c'est vrai. Enfin, voilà, moi, j'ai été étonnée par l'attitude des lycéens et qui n'ont pas bronché. Enfin, nous, on était le soir de la première, je ne sais pas le lendemain. Ah oui. Mais franchement, cette façon de désacraliser un petit peu les classiques, moi, j'adore ça. Parce que moi, je suis italienne, donc je n'ai pas eu le site à l'école.
À l'école,
de voir l'étudier à l'école. Mais enfin, j'ai étudié l'Orlando Furioso.
Toi, tu avais Goldoni, on en parlera tout à l'heure.
Et voilà, et donc, mais c'est vrai qu'en plus, bon, on était en France depuis un certain nombre d'années quand même, c'est vrai que j'ai reconnu tous les tubes dont Florent parlait tout à l'heure, et notamment le dernier, Va, cours, vole et me venge. ça va. Et c'est vrai que faire passer des classiques comme ça au niveau des lycéens, sachant qu'aujourd'hui, les lycéens reçoivent tout. Plus ou moins par l'image, plus que par les livres. Hein. Ils sont beaucoup sur l'Internet, les réseaux sociaux. C'est frais, c'est léger. Et ils ont aimé, ça se voyait. Enfin, quand on est sorti de la salle, mais on avait tous, on rigolait, les zygomates, les zygomatiques, on était tous... C'était fabuleux. Moi, je suis sortie de là-dedans me disant, ouf, quel bon moment, j'ai envie d'aller danser, d'aller boire un pot, d'aller faire... Vous m'avez vraiment donné un moment de vie. De joie, de grande joie.
Vous êtes restés après, parce qu'après on peut danser et boire un coup avec nous après, justement.
Ah ouais, ben on est restés, on vous a vu après chanter, on a assisté à votre prestation avec les instruments. Non, franchement, c'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde, aux petits, aux grands, c'est
vraiment... Je pense que c'est ce qu'on propose aussi. C'est une performance oui. De scène. Je pense que c'est ça aussi que les lycéens ou que les jeunes aiment bien, comme
bien sûr.
Je pense le tout public, c'est que nous, on considère que le théâtre, c'est aussi... Quelle est la différence entre une pièce de théâtre et un film, effectivement.
Ouais.
Le débat est très, très long. Mais Venir au théâtre, c'est venir voir une performance humaine aussi. C'est voir des gens qui prennent des risques, qui sont polyvalents. C'est ça aussi qui ouais. les épate et qui les fascine, et qui vous
bien
fascine.
Sûr, bien sûr.
C'est le fait qu'on soit en même temps comédien, manipulateur, chanteur, musicien. On se rapproche un peu du domaine du cirque, parfois. C'est,
oui, oui, tout
et
à fait.
Et il y a une forme de magie. On parlait du côté visuel de nos spectacles. Effectivement, donc on aime beaucoup faire des apparitions, des disparitions avec peu d'éléments. Donc on disait, recycle, on réutilise. Ah. Donc c'est aussi cette magie que les gens apprécient particulièrement. Et mon Dieu, mais vous nous avez emmenés très loin,
oui.
avec peu de choses, et avec vous aussi, votre polyvalence. Ouais. Et sans prétention, hein, je veux dire, je pense que voilà. Et c'est ça aussi qui fait que les gens se régalent et sortent avec la banane. Et disent, bon, ouais, ouais. C'est super, quoi. Parce qu'ils sont partis quand même aussi, ouais.
Mmh. Il faut aussi rappeler que la pièce de Corneille, donc le Cid, avait été controversée à l'époque, puisqu'il il remue un petit peu le cocotier vis-à-vis des trois unités.
Hein, trois unités.
C'est un petit peu, disons qu'il bouleversait un petit peu les habitudes, qu'il va reprendre après, une fois qu'il sera à l'Académie française d'ailleurs, hein, puisqu'il ne sortira plus jamais du carcan des trois unités. Mais c'est vrai qu'avec l'illusion comique et le Cid, là il était un petit peu en train de bousculer tout ça.
Il n'y a pas de justice dans le Cid. Enfin, je veux dire. Oui, c'est ça. Où est la justice, enfin, bon.
Ben oui, c'est un débat, Vincent.
C'est un débat. Non, parce que nos personnages, Alonso, quand on rentre dans la salle, on ne va pas tout dire non plus. Nico et moi, on n'est pas d'accord, parce que moi, en plus, dans le spectacle, je fais le roi qui rend la justice, et puis Nico fait un autre personnage, je dis, mais non, mais la justice, non, c'est pas une vraie justice, tout ça, c'est du bidon. Enfin, donc du coup, les gens nous voient nous chamailler sur ce plateau.
J'imagine, comme dit Florent, à l'époque de Corneille, ça, c'était quelque chose qu'effectivement, c'était vu vraiment d'un mauvais œil de la part du public, quoi, parce que...
Et des académiciens.
Et des académiciens.
Ouais, ouais.
Puis j'imagine aussi que les débats que vous avez sur scène, c'est des débats que vous avez eus avant et dont vous avez parlé, vous, c'est vos positions personnelles
On a beaucoup discuté, c'est-à-dire au moment où on nous a proposé de faire le Cid, parce que ça n'a pas été au début un choix de notre part, on ne s'est pas dit tiens, si on montait le Cid. C'est un directeur de théâtre avec qui on travaille depuis très longtemps sur Marseille, qui nous aime bien, qu'on aime beaucoup. Dominique Bluzet, qui nous a proposé le Cid, où on s'est dit, tiens, c'est une proposition intéressante, étudions-la. Et donc, c'est vrai qu'on a pas mal discuté dessus, à se dire, tiens, de quoi ça parle ? Ça parle de ces valeurs d'honneur, où aujourd'hui, on se dit, bon, oui, l'honneur dans l'absolu, pourquoi pas, mais voilà, tout ça, la vengeance, oh là 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 là. Moi, ça me posait pas mal de problèmes, justement, cette histoire de fin, avec le roi qui ne fait pas justice envers Roderick, parce que c'est un homme d'importance, et donc, voilà... Cette injustice, quoi.
Là, j'ai une question. Alors, bon, ben, je sais bien qu'il y a le Matamore dans la fameuse pièce Edmond Florent, parce que j'ai comme d'habitude un trou, mais le Matamore, c'est dans Capitaine Fracasse.
Ah oui.
C'est drôle parce que votre Cid, il ressemble énormément à tous ces picaresques espagnols de la bonne tradition. Vous connaissiez déjà avant ou c'était en route ou c'est juste l'ambiance espagnole qui fait qu'il se vient comme ça?
Mais c'est un choix, c'est une couleur, c'est quelque chose qui nous inspire parce que aussi c'est une musique, c'est une posture corporelle aussi, c'est vrai qu'on a un Cid un peu toréador comme ça qui du coup parce que bon on parlait du visuel mais on aime beaucoup dans la compagnie le théâtre oriental. Qu'il soit balinais, qu'il soit japonais, etc., qui est un théâtre qui est beaucoup un théâtre de corps aussi, de masques, on en parlait de ça. Donc on aime beaucoup aussi, je dirais, jusqu'à chorégraphier notre manière de bouger, d'exister, chacun de ces personnages. Et donc du coup, Philippe Carr, le metteur en scène, qui fait Rodrigue, lui, il a eu très envie de transformer ce Cid en espèce de toréador, un peu danseur, un peu toréador, entre flamenco et toréador, et il en développe toute une gestuelle, toute une élégance, voilà, donc qui fait qu'effectivement, on emprunte tout ça.
En même temps, complètement gauche aussi, quoi.
Voilà, c'est et il n'est pas le Matamore de Capitaine Fracasse, il est beaucoup plus proche de, vraiment, des vrais picaresques, qui sont toujours maladroits. Tout arrive malgré eux.
Hein, c'est un peu l'idée, là.
Voilà.
Voilà, je vois que l'heure tourne. Je rappelle que la pièce s'appelle Elside. C'était au théâtre Jean Villard. Ce soir, c'est à 20h. Et ben, toute l'équipe a adoré le spectacle. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. Et Gradien, c'est toi qui as choisi la musique de la petite pause. Tu peux nous dire ce que tu as choisi ?
Alors, j'ai choisi Dos Gardenias.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Pour le plus grand bien de vos oreilles.
Tu n'as pas du tabac ?
Non, je fume pas.
Merde.
Et tu n'as pas de tabac ?
Je ne fume pas.
Est-ce que t'as du tabac ?
Non, désolé, je ne fume pas.
Tu me donnerais du tabac ?
Bien sûr, si j'en avais.
Je t'échange les faillots contre un peu de tabac, d'accord ?
Je n'ai pas de tabac, mais je veux bien des...
As-tu du tabac ?
Non, je l'ai troqué.
Contre quoi ?
J'ai pas à te le dire.
Menteur.
Voleur.
Tu es sûr que tu n'as pas de tabac ?
Je crois te l'avoir déjà dit, je ne fume pas. Et si je ne fume pas, il y a de fortes chances pour que je n'aie pas de tabac, d'accord ?
T'aurais pas du tabac en trop ? Ah, bien sûr, t'es pas du genre à avoir du tabac en trop. T'en as pas, toi ?
Non, je regrette.
Derrière toi, ce ne sont pas des boîtes de tabac ?
Si. Mais elles sont toutes vides. Elles ne contiennent pas de tabac. Et pour vous, l'ami, des munitions ?
Je voudrais du tabac, s'il vous plaît.
Il m'en reste peut-être. Une ou deux carottes. De ma réserve personnelle. Pour les amis, je veux dire.
Je ferai pas ça à ta place.
Et pourquoi ça ?
C'est dangereux pour ta santé.
Je t'emmerde.
Tu m'emmerdes ? Je t'emmerde.
Divergence FM.
Divergence FM sur le 93.9 avec nos petits jingles Fabrication Maison. L'émission Vendredi Théâtre, deuxième plateau de cette émission, et nous allons parler du théâtre de Clermont-Lérault. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir monsieur Fabien Bergès, pardon. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes directeur du théâtre de Clermont-Lérault. On va peut-être d'abord présenter un petit peu ce théâtre. Vous êtes nommé, vous, depuis 2012, si je ne me trompe pas.
Voilà, il y a un an que je suis arrivé à la tête du théâtre. C'est un théâtre qui est en pleine mutation, à vrai dire, puisque ancien théâtre lié à la ville de Clermont-Lérault, bourg-centre, territoire du cœur d'Hérault, et qui va devenir théâtre intercommunal, qui va être géré par la communauté de communes à partir du mois de janvier. Donc notre périmètre d'action, qui est déjà enclenché dès avant mon arrivée d'ailleurs, mais qui va ne faire que se confirmer, va être plus le territoire véritablement, au-delà de la ville-centre, tous les villages autour, plus les partenariats avec les communautés de communes voisines de Lodève et de Gignac notamment, qui ont aussi des politiques culturelles structurées. Voilà, et d'ailleurs, c'est aussi un théâtre donc, qui... On a la chance d'avoir un équipement dans une petite ville. C'est un équipement qui est pas récent, qui est pas ultra moderne, mais qui a plein d'atouts. Au-delà de ça, mon souhait, c'est de dans ce mouvement d'ancrage territorial, mais au-delà de ça, pour aller rencontrer tous les publics et notamment ceux qui franchissent pas les portes du théâtre, faire un projet qui mêle théâtre dans et hors les murs. Et pour cela, à partir de 2014, nous redeviendrons une scène conventionnée par l'État et nous serons conventionnés pour le théâtre dans l'espace public, justement.
Alors le théâtre de Clermont-Lérault, c'est un théâtre qui a été construit, si je ne me trompe pas, au Second Empire.
Oui, peut-être, ça remonte.
1856.
Oui, c'est ça.
On va rappeler que c'est un théâtre d'à peu près 200 places, si je ne me trompe pas, qui a été refait plusieurs fois, d'ailleurs.
Voilà, la dernière mouture de travaux date de la fin des années 80. C'est un théâtre qui est assez adapté aux exigences d'aujourd'hui, mais avec en même temps, les années 80, c'était déjà il y a 30 ans.
Oui. C'est un théâtre dont tout le monde me parle, tout le monde me dit, mais faut que tu ailles à Clermont-Lérault parce qu'il se passe des choses. Donc c'est pour ça que j'ai absolument tenu à vous recevoir aujourd'hui pour que vous puissiez nous parler de ce lieu, de ce qui s'y passe et de la programmation. Comment ça se passe, une programmation pour un théâtre?
À mon arrivée, moi, effectivement, en plus, je suis de mon parcours. J'ai dirigé une compagnie de théâtre jusque-là pendant 12 ans. J'étais avant tout metteur en scène, parce que j'étais à la tête de la compagnie Humanitéâtre. Et donc, c'est sûr que j'ai envie d'imprimer un style, une vision. Enfin, tous les directeurs font la programmation avec leur sensibilité. Mais c'est vrai que moi, j'avais envie de défendre les convictions que j'ai sur ce que peut être un théâtre aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, ce qui a guidé la programmation, c'est deux, trois choses. J'ai parlé de l'espace public hors les murs. Un équilibrage important pour travailler avec le public aussi dans des relations différentes que les relations conventionnelles de la salle de spectacle. Sur la programmation elle-même, les contenus, il y a beaucoup de choses qui ont trait au monde d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, au-delà des classiques. Je ne m'interdis pas qu'il y ait des classiques un jour. J'ai vu le précédent là, dont vous avez parlé, CID, l'agence de voyage imaginaire, que j'ai trouvé très bien aussi. mais c'est vrai que pour cette année, j'ai privilégié plutôt des spectacles qui ont trait au monde d'aujourd'hui, soit écrits par des auteurs vivants, soit écrits par des compagnies elles-mêmes qui écrivent collectivement. Je suis en recherche de projets qui essayent de questionner le sens du théâtre aujourd'hui. Quel sens il peut avoir, surtout pour le public. Ma préoccupation principale étant d'essayer de refaire du théâtre une expérience nécessaire, de faire en sorte que les gens se redisent que c'est absolument nécessaire dans la vie d'aller voir de temps en temps des pièces de théâtre. Donc pour ça, je me suis dit, j'ai envie d'artistes qui interpellent les gens dans leur vie d'hommes et de femmes d'aujourd'hui. Et donc voilà, il y a des pièces qui parlent de la famille, du travail, de l'adolescence, beaucoup de sujets d'aujourd'hui. Et j'espère que c'est un théâtre que j'aime à qualifier d'exigeant et populaire à la fois, c'est-à-dire exigeant parce qu'il y a toujours un propos sur le monde qui n'est pas, pas simplificateur, qui nous renvoie une réflexion de notre existence d'hommes et de femmes contemporains. Et en même temps, je fais en sorte, toujours dans les spectacles que je choisis, qu'ils soient accessibles, qu'il n'y ait pas une forme hermétique, quoi. Mmh. Je suis attentif aux formes que l'on dit populaires, en tout cas. Bon, après, voilà, c'est un mot un peu galvaudé.
C'est populaire dans le bon sens du terme.
Ouais, hein. Voilà, ça, c'est ce qu'on aime bien dire. Que, pour pas avoir comme référence des choses faciles et démagogiques dont on sait qu'elles peuvent attirer du public. Mmh. Hein, voilà. Et effectivement, moi, j'essaye de concilier dans mes choix des choses exigeantes, voilà, qui demandent... qui donne à penser, quoi, disons, voilà, sur l'homme et le monde, mais en même temps, qui, dans leur forme, puissent être vus par ceux qui vont au théâtre régulièrement et ceux qui n'y vont jamais aussi. Qu'il n'y ait pas des clés pour comprendre la forme. Moi, c'est surtout dans la forme. Et pour cela, j'aime beaucoup des théâtres surtout basés sur les acteurs, quoi, des acteurs qui jouent, qui incarnent, qui cherchent une interprétation vraie, juste. J'aime bien les histoires aussi, les fables, voilà. Donc voilà, c'est avec tout un peu tous ces critères, toutes ces valeurs, toutes ces convictions que j'ai bâti cette première programmation.
Alors, on ne pourra pas parler de tout le programme parce qu'il est extrêmement riche. Je l'ai sous les yeux, il y a plein de choses, il se passe des choses tout le temps. On va peut-être parler des prochains rendez-vous pour le mois de décembre et janvier.
Et alors, en ce moment, on accueille des spectacles de cirque dans le cadre d'une initiative du pôle cirque La Verrerie, itinéraire de chapiteau en massif central, et on s'est associé avec la communauté de communes de l'Audévoye et l'Arzac pour ça. Donc ça commence dès ce soir avec une petite forme de la compagnie Ça s'écrit pas, un spectacle qui s'appelle Vue, qui va être joué donc dans des petits lieux, pas au théâtre, dans la salle polyvalente de Brignac, juste à côté de Clermont-Lérault, ce soir à 18h, et demain à Octon à la même heure, et mercredi dans la salle d'une compagnie de cirque qui est implantée à Clermont-Lérault qui s'appelle le Point de Singe, qui a une petite salle qui s'appelle le Contrepoint. C'est un spectacle de cirque miniature, où c'est entre le cirque, le clown, le théâtre d'objets. C'est un personnage qui manipule des objets du quotidien. Alors sa part, on le voit un peu maniaque, hein. Il est avec des tasses à café, des sucres, et petit à petit, cet univers-là tourne à l'absurde et le dépasse. Hein. Voilà, c'est un spectacle à voir en famille. Et qui sera suivi d'un temps fort autour du cirque le week-end prochain à l'Audève, où nous nous associons donc à nouveau avec la communauté de communes de l'Audève et l'Arzac, où pendant tout le week-end, on accueille deux spectacles sous yourte qui sont joués trois fois pendant le week-end. Toujours la compagnie Ça s'écrit pas, avec un spectacle qui s'appelle Marée basse, et la compagnie Los Galindos, avec un spectacle qui s'appelle Mayurta. Voilà, c'est tout le week-end des spectacles à voir en famille à l'Audève. Spectacle accueilli donc en partenariat Théâtre de Clermont-Lérault, Pôle Cirque Cévennes et Communauté de communes de l'Audévoye-l'Arzac.
Alors je vois aussi qu'il y a un spectacle qui s'appelle Un papillon dans la neige, qui sera le 14 décembre.
Voilà, ça c'est un spectacle tout jeune public à partir de 2 ans. On essaye d'avoir tout au long de l'année et on les présente vraiment de la même façon que les spectacles dits jeunes publics et les spectacles tout public. Celui-là est visible à partir de 2-3 ans, c'est celui où on peut amener les spectateurs les plus jeunes, voilà, où on entre dans une petite structure. C'est un spectacle très esthétique, pictural, voilà, à voir en famille. Ça, c'est le 14 décembre et ça a encore lieu dans un village à Octon. Et c'est en janvier qu'on relance la programmation à l'intérieur des murs du théâtre, où l'on accueille le collectif Les Possédés, qui est une compagnie qui, avec un noyau d'acteurs, qui s'attaque à beaucoup de classiques, mais aussi là, récemment des textes contemporains, notamment de cet auteur Laurent Mauvignier, dont ils adaptent ici un extrait de son premier roman qui s'appelle Loin d'eux, sur les relations familiales. C'est l'histoire de Luc, un adolescent qui a quitté sa province pour aller tenter sa chance à Paris et qui échouera tragiquement dans cette tentative d'arrachement à ses racines provinciales et de trajectoire individuelle. Et on reconstruit tout son parcours avec un seul acteur qui joue tous les personnages, le père, la mère, l'oncle, la tante, le frère, le cousin, Luc lui-même. et en essayant de comprendre comme ça les positions de chacun. C'est un spectacle à la frontière du théâtre et de la littérature, parce qu'un acteur qui porte comme ça un roman, une parole brute, mais qui la rend très, très vivante. Voilà, c'est un spectacle qu'on accueille donc le 17 janvier, je crois. Le 16 janvier, jeudi 16 janvier à 19h au théâtre de Clermont-Lérault.
Aujourd'hui, c'était un peu une prise de contact entre nous. Moi, ce que je vous propose à Vendredi Théâtre, c'est que vous veniez régulièrement pour nous faire part de ce qui se passe au théâtre de Clermont-Lérault. Parce que je pense que c'est un lieu qu'on aime bien ici. On ne fréquente pas beaucoup parce qu'on n'est pas très motorisé, nous, ici. Mais au vu de la programmation, ça me semble tout à fait intéressant. On n'a pas parlé de la politique tarifaire non plus, ce qui me semble que c'est très, très abordable.
Oui, oui. Les places les plus chères sont à 12 euros, tarif normal. Et il y a plein de tarifs réduits. Notamment, on n'a pas d'abonnement pour le moment. On n'a pas de système d'abonnement. Par contre, on a une carte passe, un peu comme il y a au cinéma. C'est-à-dire, on achète une carte passe à 40 euros pour 5 spectacles. Ça fait 8 euros la place. Et on peut l'utiliser sans limitation. Enfin, sur une saison, mais on peut l'utiliser à plusieurs. On peut en racheter plusieurs. Voilà, c'est comme une carte de crédit, quoi. Donc... si on aime bien le théâtre de Clermont-Lérault, on peut y venir souvent pour 8 euros la place. Quoi, voilà.
Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau. Et donc, vous venez quand vous voulez pour nous parler de votre théâtre. Et on va se séparer avec, puisqu'on est au théâtre. Quand on est au théâtre, on voit toujours La Vie en Rose. Donc, j'ai choisi une version de La Vie en Rose par Marlène Dietrich. Merci Fabien.
Merci.
Quand tu me prends la salle, une femme tu vois, je bois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré, pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va. Les yeux qui font baisser la mienne, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle de moi, je bois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui
Divergence FM.
Tu penses à quoi exactement ?
Ça m'a toujours semblé étrange. Quelqu'un vous aime passionnément, passionnément.
L'amour.
Et d'une minute à l'autre, plus rien. Plus rien. Plus rien. Ça fait tellement mal.
Dans les rues de la ville, il y a mon amour.
Dès que je pressens que quelqu'un va me quitter, je quitte tout de suite. avant d'entendre l'explication en entier. 93.9. Toujours la même chose pour moi. Séparation, dépression.
Tu veux en venir où, là ?
Récupération par la boisson, rencontre d'un garçon, puis d'un autre polisson.
Qu'est-ce que t'es en train d'essayer de dire ?
Quelques parties de jambes en l'air, pour oublier ce cher garçon, et puis après trop de vide, on cherche à nouveau l'amour de notre vie.
T'es pas un peu anormal ?
Je veux être seule, reste là, toi ta gueule.
On cherche un peu partout, et enfin après 2 ans de désespoir et de solitude, on trouve un autre amour jusqu'à la prochaine fois.
Oh, vous savez que j'aimerais mieux une paire de claques qu'un autre méchant.
Il y a un moment où on peut plus se remettre d'une autre séparation. Et que même si cette personne vous emmerde 60% du temps, eh ben on peut pas vivre sans elle. Que même s'il vous réveille tous les matins en vous éternuant en pleine figure, eh bien on préfère ses éternuements à tous les baisers des autres, des autres, des autres, des autres.
C'est vrai ?
Divergence FM.
Oh non, c'est trop beau ça !
93.9.
Et oui, le 93.9 Divergence FM, le dernier plateau de l'émission Vendredi Théâtre. Et il y a beaucoup de monde qui s'est installé dans le studio. Nous allons parler d'un très joli spectacle que j'ai vu hier soir qui se déroule au Carré Rondelet. Il s'agit de La Locandiera de Carlo Goldoni. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir pratiquement, je pense, au grand complet, la compagnie La Logeuse. Donc je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres parce que j'ai peur d'écorcher vos noms déjà. Alors allez-y, qui veut commencer ?
D'accord, alors moi je suis Fanny Honoré, c'est moi qui mets en scène le spectacle et je joue dedans également un petit rôle de comédienne.
À vous.
Alors moi c'est Asiba Boussena, donc je joue dans ce spectacle le rôle de Mirandoline et la belle aubergiste. Donc, qui,
La Locandiera, c'est
la
vous.
La Locandiera, c'est moi, voilà.
Moi c'est Alexandre Blanc-Paradis et je joue le marquis dans cette pièce.
Très drôle le marquis.
Merci.
Bonjour, moi c'est Raphaël Plutino. Alors je joue les deux rôles, Bastien et le comte.
Bonjour, alors je suis Bertrand Dadol, je suis le chevalier de Ripafrata, excusez-moi.
À vous.
Et bonjour, et moi je suis Aurélien Ferru et j'interprète le rôle de Fabrice, le valet de Mirandoline.
Alors, La Locandiera, donc c'est une pièce de Carlo Goldoni. Donc, on a reçu tout à l'heure une pièce de Corneille. Carlo Goldoni, en Italie, c'est un monstre sacré aussi. C'est un petit peu le Molière italien,
oui,
avec un siècle d'écart. Mais...
Effectivement.
Et d'ailleurs, il se revendiquait de Molière.
Oui, de Molière. Voilà, il y a aussi une influence de Marivaux. Enfin, c'est quelqu'un qui connaissait très bien les auteurs français et qui, effectivement... trouvait que la commedia dell'arte devenait en Italie un peu obsolète et avait envie d'amener de la psychologie et de la profondeur dans les personnages du théâtre italien.
Et d'ailleurs, il est mort à Paris, Goldoni.
Eh oui.
On le dit souvent, il est mort à Paris. Et à la fin, il écrivait en français.
Oui.
Alors pourquoi avoir choisi, parce qu'il a écrit 200 pièces au moins, Carlo Goldoni, c'est une production énorme, pourquoi avoir choisi La Locandiera, donc La Belle Aubergiste ?
Eh bien, à vrai dire, ça part d'un pur hasard. C'est un livre que j'avais pioché dans une librairie. Voilà, attiré par le 4e de couverture et que j'ai dévoré en riant, en m'amusant beaucoup. Et au moment où il a été question pour moi de monter un texte, j'ai pensé à La Locandiera immédiatement. Alors peut-être aussi à cause de la prépondérance du personnage féminin. Voilà, parce que, bon, en tant que metteuse en scène, c'est vrai que la littérature qui a trait à la féminité, à la condition féminine, m'intéresse beaucoup.
C'est vrai que ce n'est pas très courant d'avoir une pièce, surtout pour cette époque-là, où le personnage principal qui domine tout le monde, c'est une femme.
Oui, ça c'est très moderne.
Alors qui veut résumer un petit peu la pièce ? Donc la belle aubergiste, tout le monde est amoureux d'elle dans l'histoire.
Oui, tout le monde, sauf une personne.
Sauf une.
Voilà, qui ne tombe pas sous le charme. Et en même temps, peut-on vraiment parler d'amour ? C'est-à-dire qu'il s'agit beaucoup de séduction et de narcissisme, quoi. Parce qu'il y a... Les relations sont très factices entre les personnages. C'est-à-dire que chacun cherche dans l'autre, finalement, le miroir de lui-même et de sa propre valeur. Donc qui, après, peut être la valeur par le rang, par l'argent... ou par la séduction, mais enfin tout est très superficiel et dans ce petit monde un peu de papier et d'apparence, voilà, va arriver le chevalier qui lui refuse de rentrer dans les convenances par misogynie effectivement.
Parce oui, c'est un sacré misogyne voilà. Quand même. Hein.
Et pourtant c'est aussi celui qui va finalement accéder aux sentiments amoureux. Et c'est presque le seul avec Fabrice qui va ressentir ça au cours du récit.
Alors, il y a le marquis, donc vous jouez quelqu'un qui est complètement imbu de lui-même et de son rang et qui est complètement fauché.
Oui.
En même temps.
Oui, imbu et fauché, exactement. Quel beau personnage, du coup, à jouer, non?
Ah, mais quel beau personnage aussi à voir, parce que moi, j'ai beaucoup ri en voyant les frasques du marquis. Il y a aussi donc le comte, lui, qui est plutôt un petit peu le parvenu de l'histoire. C'est un titre, mais un titre qu'il a acheté.
C'est le nouveau riche, en fait. Voilà, et c'est un personnage qui, pour lui, l'argent refait le monde. Et avec son argent, il va acheter toutes les personnes, notamment Mirandoline. Et voilà.
Et maintenant, je vais me tourner vers le chevalier, qui n'a pas encore de micro, donc s'il veut s'avancer un petit peu. Donc le chevalier, vous êtes donc le personnage qui n'aime pas les femmes, qui est plutôt misogyne et qui va finir par succomber au charme. Il faut dire qu'elle en fait des tonnes, hein, la belle aubergiste, pour le séduire.
Tout à fait, elle se donne beaucoup de mal. Mais je débarque un petit peu dans cette auberge, un peu stupéfait de voir aussi tout ce qui s'y passe. Et peut-être aimerait donner une bonne leçon au comte et au marquis. Et je tombe dans le panneau, moi aussi. Merci Mirandoline.
Est-ce que ça serait possible d'avoir un petit extrait? Je vous ai demandé ça hier, je ne sais pas si vous avez pu préparer quelque chose, oui, ou si c'est possible.
C'est possible.
C'est un extrait du début, de la fin?
Alors, c'est un extrait du moment charnière du premier acte, c'est-à-dire le moment de bascule entre ce petit univers où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, Mirandoline séduisant ses clients y répondant avec beaucoup de joie, et puis le chevalier qui, tout d'un coup, va prendre la parole et renverser cet ordre établi.
Vous désirez quelque chose?
Oui,
oui, oui. J'ai souhaité votre présence, mais pas ici.
Où donc votre Excellence la souhaite-t-elle?
Dans ma chambre.
Dans la chambre de votre Excellence?
Oui.
Mais si votre Excellence a besoin de quelque chose, Fabrice est à sa disposition.
Chère Mirandoline, moi je vous parlerai en public, car je ne vais point vous donner le dérangement de venir dans ma chambre. Regardez ces boucles d'oreilles. Eh bien, vous plaisent-elles?
Elles sont fort belles.
Vous savez, ce sont des diamants.
Je l'avais bien vu, je m'y connais.
Elles sont à vous.
Pourquoi monsieur le comte m'offrerait-il ces boucles d'oreilles?
Écoutez, Mirandoline, je vous les offre pour l'amour de moi.
Oh non, vraiment, monsieur le comte, je ne puis accepter.
Écoutez, Mirandoline, vous me fâcherez si vous ne les prenez pas.
Je ne sais que dire.
Je vous en prie, Mirandoline.
Je tiens à cœur de garder l'amitié des clients de ma maison. Je vais donc accepter pour ne pas vous fâcher.
Dites-moi, patronne, le linge que vous m'avez donné est de très 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 mauvaise qualité. Vous comptez me le changer ou faut-il que j'aille m'en acheter moi-même?
Que monsieur ne se donne pas cette peine, monsieur va en avoir du meilleur. Monsieur va être servi selon ses désirs.
Bien.
Mais il me semble que monsieur aurait pu réclamer avec un peu plus de gentillesse.
Mais là où je paie de mon argent, je ne vois pas la nécessité de faire des cérémonies.
Ayez de l'indulgence pour lui, Mirandoline, c'est l'ennemi juré des femmes.
Je n'ai pas besoin de son indulgence.
Que vous ont-elles donc fait, ces pauvres femmes, monsieur le chevalier? Pourquoi cette cruauté envers nous?
Il suffit! Et ne vous permettez plus ces familiarités avec moi. Changez mon linge. C'est tout ce que je vous demande. Je l'enverrai prendre par mon valet.
Bien, monsieur le chevalier.
Mes amis, je suis votre humble serviteur.
Merci, merci, parce que je sais que c'est un exercice qui n'est pas très facile de passer des planches au micro. Je voudrais revenir sur la compagnie, donc la compagnie La Logeuse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette compagnie, si elle existe depuis longtemps? Je ne crois pas.
Non.
Et un petit peu votre parcours.
Alors la compagnie La Logeuse, elle est née en février 2013. Donc effectivement, elle est toute jeune. En fait, ça part de mon master, parce que j'ai fait un master de pratique de la mise en scène à l'université Paul Valéry. Et donc, j'avais choisi la Locandira comme projet d'étude. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté mes compagnons qui m'ont rejoint sur ce projet. Et j'ai créé du coup la compagnie pour avoir une structure afin de pouvoir jouer dans différents lieux. Et la première de la Locandira a eu lieu dans le cadre du festival Art Content pour tous à la MPT Rosalie Parks, qui se trouve à Malbosque. Et de là, ça a pris un peu d'ampleur parce que finalement, on a rencontré Avner Pérez du Carré Rondelet qui nous a invités à venir jouer chez lui.
Qui vient régulièrement chez nous.
Et voilà, et donc là on est un peu au moment charnière justement où on sort de nos formations et on commence à essayer de rentrer dans le monde professionnel et puis de se produire professionnellement justement
avec la compagnie La Logeuse, du coup, comme structure.
Mais c'est vrai qu'une petite structure, une petite salle comme donc le Carré Rondelet, ça permet aussi aux jeunes compagnies de pouvoir s'exprimer.
Oui, pour nous, c'est très bien. Effectivement, c'est un lieu qui est ouvert aux jeunes artistes, aux créations nouvelles. Et pour nous, c'est une vraie chance, effectivement, de pouvoir être accueillis là-bas et qu'ils nous fassent confiance voilà, pour faire nos premiers pas en tant que professionnels sur le plateau. Ouais.
Alors, il y a un personnage dans la pièce dont on n'a presque pas parlé, c'est le valet. Hein, je vous donne le micro. Alors, le valet, lui, il est amoureux aussi de la belle aubergiste.
Tout à fait. D'ailleurs, il doit s'accrocher puisqu'il subit au quotidien le comte et le marquis qui drague sa patronne devant lui. Mais bon, il doit s'en tenir à son rang de valet et obéir poliment, prendre sur lui.
C'est vrai qu'il déguste un petit peu parce qu'il doit vraiment prendre sur lui. Puis ils sont assez odieux quand même, les trois.
Oui, tout à fait.
Les trois aristos.
Pas tant que ça.
Non, non.
Alors, au niveau du public, c'était la première hier, vous l'aviez déjà jouée avant, vous allez la jouer encore ?
Alors oui, on l'a jouée le week-end dernier, on a joué trois fois à la Maison pour tous Rosalie Parks, qui donc nous avait proposé de revenir après Art Content pour tous. Et là, on joue jusqu'à dimanche au Carré Rondelet. Et voilà, après pour la suite de l'aventure, il ne serait pas impossible justement qu'on y retourne. Voilà, peut-être sur un temps plus long, voilà, pour rejouer la Locandira.
En plus, c'est fabriqué de manière à ça puisse se jouer presque partout. Oui. Même s'il y a six comédiens sur scène, ouais. Ça peut se jouer partout.
Oui, bah c'est ça, c'est qu'on a un décor qui est plutôt léger. Après, on a plein d'accessoires, on a tout un bric-à-brac de vaisselle, parce que le vin coule à flot dans le spectacle, ils mangent. Enfin voilà, il y a beaucoup d'accessoires qui reconstituent un peu toute cette vie de l'auberge. Et oui, un désir qu'on avait effectivement, c'est d'avoir un spectacle léger pour pouvoir le jouer dans plein de lieux très différents et devant des publics très différents également.
A priori, je déconseille le vin de Chypre, hein, pour ceux qui vont voir la pièce.
Mais c'est moi un aussi. Très bon vin.
Avec modération, évidemment.
Oui, avec modération.
Alors, je sais que vous préparez aussi un one-man show, j'ai entendu parler.
Oui, alors...
J'ai eu des bruits de couloir hier.
Oui, je prépare un seul en scène voilà, qui a été écrit par Frédéric Darcy, qui est un jeune auteur... et donc c'est une commande, ça s'appelle La femme à la hache, et c'est une sorte de conte moderne et un peu cruel où la jeune héroïne se rebelle et décapite son prince charmant, plutôt que de se laisser enfermer dans un château. Donc là c'est vraiment poésie contemporaine, avec de la vidéo, de la musique, et donc c'est en cours de création. Voilà.
Ça sera au Carré Rondelet ?
A priori, oui, ça sera au printemps, au Carré Rondelet, après des débuts parisiens, parce que la création a lieu à Paris.
Je vous demandais tout à l'heure pour les réactions du public, comment vous étiez à la Maison pour tous, comment ça s'est passé ?
Bah écoutez, très bien, on est très contents d'un accueil chaleureux du public. On a toujours des beaux retours, effectivement, et je crois qu'on a réussi, j'ai l'impression qu'on a réussi notre pari qui était à la fois de divertir et d'amuser. Il y a un côté très clownesque, il y a beaucoup de gags, enfin il y a un côté un peu dessin animé comme ça qui m'intéressait. Et puis cette essence de la comédia dell'arte qui devait être présente, mais en même temps avec un fond de réflexion plus profond autour de la valeur, de l'argent, du narcissisme, des rapports hommes-femmes, des rapports de classe. Et j'ai l'impression qu'on arrive finalement à raconter cette histoire, parce qu'il faut dire que c'est quand même une adaptation. La pièce, si on la monte en intégralité, dure 3 heures, et nous on est sur un format d'1h30. Donc on voulait à la fois arriver à raconter cette histoire, mais tout en étant sur une forme très dynamique et très vive.
C'est vrai que Goldoni, il est moins connu en France que d'autres auteurs. C'est quand même l'auteur qui a écrit la trilogie de la villégiature. Sa pièce la plus célèbre, c'est peut-être Arlequin, valet de maître.
Oui, avec Strehler aussi, qui a fait connaître beaucoup Goldoni. Ouais.
Et Visconti aussi, avait fait. Oui. Bah, il avait fait une mise en scène en 1952, je crois, Visconti de la Locandira.
Oui.
Pour les plus âgés. <d'après>. Bah écoutez, longue vie à la compagnie, longue vie au spectacle. On va rappeler que c'est au Carré Rondelet. Alors, je n'ai pas tous les horaires. C'est donc ce soir et demain, c'est à 20h30. Oui. Et dimanche, c'est à 18h.
Ouais.
Ben, merci à vous tous de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de Vendredi Théâtre. Je rappelle aussi, petite annonce, c'est que le lundi 2 décembre de Divergence, nous serons pour tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le théâtre sans jamais oser le demander. C'est une manifestation qui aura lieu au Théâtre Jean Villard où on pourra s'interroger sur ce que c'est que le théâtre. Ça sera animé par Mathias Beller et l'équipe de Vendredi Théâtre sera dans la salle. Ça sera à 20h donc au Théâtre Jean Villard. Vendredi Théâtre, c'est terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, nous ferons une émission spéciale consacrée à l'ENSAD, l'École Nationale Supérieure d'Art Dramatique de Montpellier. L'ENSAD qui fête ses 10 ans et Richard Mitou viendra nous en dire quelques mots parce qu'il y a plein de manifestations qui vont se passer au Conservatoire pour célébrer ses 10 ans. Très bonne semaine théâtrale à tous. Je remercie Bruno Bertrand à la technique et puis à la semaine prochaine. Au revoir.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.